Nos droits et obligations à titre de consommateur, quels sont-ils? Pour en savoir plus, voici Charles Tanguay de l'Office de protection du consommateur.
Il est avec nous au bout du fil et bien sûr, bientôt Noël. Vous pensez aux cadeaux que vous offrirez à vos proches cette année et parmi vos idées, il y a peut-être un ou des appareils électroniques, j'imagine, tablettes, je ne sais pas, appareils photo, liseuses, télé, etc. Alors, s'il y a un appareil électronique dans votre liste, notre conversation avec M. Charles Tanguay ce matin de l'Office de la protection du consommateur devrait peut-être vous intéresser. Il nous explique nos droits et nous donne aussi quelques conseils en matière d'achat. Bonjour Charles!
Bonjour Anne.
Charles, on sait que les appareils électroniques sont rarement donnés. Alors, comment éviter de se retrouver en plus avec une facture plus élevée que prévue?
Ben, d'un point de vue pratique, la première chose à faire, c'est évidemment de bien identifier nos besoins avant de faire notre achat. Donc, quand on se retrouve devant une multitude de choix, des technologies les unes les autres les plus sophistiquées, et puis on a affaire à un vendeur qui parfois est habile et peut être tenté de nous faire acheter quelque chose qui dépasse ce dont on a besoin. Bon, bref, ça peut finir par coûter plus cher que prévu. Alors, faut faire sa liste de critères pour telle machine et on peut regarder des sites spécialisés, des sites surtout indépendants. Donc, le magazine Protégez-vous avec ses tests comparatifs peut être une bonne source aussi, bien entendu. Et puis, l'idée, c'est d'avoir un appareil qui répond à nos besoins puis qui offre un bon rapport qualité-prix. Maintenant, du point de vue de la protection du consommateur, il faut aussi savoir que le prix qu'un commerçant annonce doit comprendre tous les frais qu'il compose, c'est-à-dire aussi, y compris, les éco-frais, c'est-à-dire les frais qui couvrent le coût de récupération de l'appareil. Alors, ça signifie que le prix affiché en évidence doit correspondre au total du coût de l'appareil et des éco-frais avant les taxes. Par exemple, si vous achetez un téléviseur de 32 pouces dont le prix est de 500 $ et que les éco-frais sont de 42,50, ben le prix affiché, ça doit être 542,50. Et ce prix ne peut pas être augmenté, bien sûr, à moins que vous demandiez que des produits ou des services soient ajoutés. Alors, faut garder l'œil pour éviter d'avoir des surprises au moment de passer à la caisse.
Parfait. Quand on souhaite acheter un appareil électronique, on est nombreux à surveiller les rabais dans les publicités, les circulaires, pour faire, bien sûr, des économies. Il y en a des soldes tentants, tellement tentants qu'il arrive qu'on se présente en magasin, que l'article convoité soit en rupture de stock. Est-ce qu'on a des droits dans ce genre de situation?
Alors, il faut savoir qu'un commerçant qui annonce un article en solde doit en avoir une quantité suffisante pour répondre à la demande. Mm-hmm. C'est ça que dit la loi. Et si les quantités sont restreintes, alors le commerçant doit préciser la quantité exacte qu'il a en stock dans sa publicité. Alors, les mentions « quantité limitée » ou « jusqu'à épuisement des stocks », ça correspond pas aux critères. Il faut vraiment qu'ils nous disent « nous avons 10 télés de 32 pouces à vendre pour ce solde en magasin. » Alors, si le commerçant n'a pas précisé de quantité et que l'article annoncé est en rupture de stock quand vous arrivez dans le magasin, c'est choquant. Vous pouvez demander au commerçant qu'il vous offre au prix du solde un article équivalent de valeur égale ou supérieure. Okay. Et puis, certains commerçants vont aussi vous remettre un coupon d'achat différé pour acheter l'article plus tard au même prix que le solde quand il en recevra d'autres. Sinon, on peut toujours évidemment aussi porter plainte à l'office là, quand c'est manifestement un solde bidon, c'est-à-dire qu'on a très peu d'articles en magasin et on fait déplacer les gens pour rien. Okay. C'est un peu choquant.
Donc, on peut vous rejoindre pour ça aussi. Ouais. Je vous soumets une autre situation. Dans un circulaire, on annonce un appareil photo 450 $. Sur l'image, on voit qu'un appareil équipé d'un flash externe et d'un écran tactile. Alors, je vais en magasin pour me le procurer, l'appareil en question. Mais une fois sur place, je constate que celui qui est vendu à 450 $ ne possède ni flash externe, ni écran tactile. Alors, l'appareil présenté dans la circulaire était en fait un modèle plus équipé de la même gamme. Est-ce que c'est permis, une pratique publicitaire comme ça?
Non. Et puis, on voit ça souvent aussi dans le domaine automobile. La voiture est beaucoup plus équipée que le modèle qui est annoncé à ce prix-là. Alors, faut savoir qu'un message publicitaire qui contient des renseignements faux, trompeurs ou qui passe sous silence un fait important, c'est illégal. Okay. Par exemple, un commerçant ne peut pas montrer dans une circulaire l'illustration qui n'est pas fidèle au bien ou au service qui est annoncé. Donc, le commerçant ne pourrait pas montrer la photo d'un appareil photo mieux équipé et coûtant plus cher que l'appareil qui est annoncé, comme vous l'avez donné en exemple. Et puis, si vous vous trouvez dans une situation où un commerçant ne respecte pas ces règles, on peut, encore une fois, le dénoncer à l'office.
OK. Autre chose, si on achète un cadeau, Charles, mais que l'appareil ne convient pas à la personne à qui on va l'offrir, on peut toujours demander un échange ou un remboursement, c'est possible?
Oui, ben vous pouvez toujours le demander, mais comme on en a parlé il y a quelques semaines, oui. Je pense que c'est la semaine dernière, je ne me souviens plus. En fait, ils peuvent l'échanger, vous rembourser ou vous remettre une note de crédit, mais c'est lui qui décide, c'est pas la loi qui l'oblige à accepter d'un échange ou un remboursement. En réalité, comme on l'a dit, les commerçants sont libres d'avoir ou non une politique d'échange et de remboursement, puis s'ils choisissent d'en avoir une, ben, ils sont libres de fixer les conditions qu'ils veulent bien. Okay. Par contre, ensuite, ils sont tenus, bien sûr, de la respecter, leur propre politique qu'ils ont fixée. Alors, par exemple, il y a des commerçants qui vont exiger que le retour se fasse dans les 30 jours, d'autres dans les 10 jours. Certains vont demander que l'appareil soit encore dans son emballage d'origine. Il y a certains emballages en plastique là, qui sont quasiment impossibles à garder intacts si on veut les ouvrir. Mais bon, avant d'acheter, c'est donc important de s'informer auprès du commerçant au sujet des conditions de retour. Puis, on conserve sa facture, bien sûr, et puis les documents qui accompagnent l'appareil, par exemple, les documents sur les garanties.
Qui concernent les garanties. Justement, Charles, les garanties qui couvrent nos appareils plutôt électroniques, parlons-en. Plusieurs commerçants offrent des garanties plus étendues pour couvrir d'éventuels problèmes avec ce type d'appareil.
Oui. Avant de payer pour obtenir ce qu'on appelle une garantie prolongée, ou de la loi, on parle de garantie supplémentaire, il faut savoir que les garanties légales s'appliquent automatiquement et sans frais. Donc, c'est des garanties qui prévoient que l'appareil doit servir à son usage normal pendant une période de temps raisonnable, en fonction notamment du prix qu'on a payé. Donc, un commerçant ne peut pas vendre un bien sans garantie. C'est toujours garanti quand c'est vendu par un commerçant. Il peut pas non plus dire ou écrire qu'il vend sans garantie. C'est une infraction. Donc, le produit que vous achetez d'un commerçant est toujours couvert par les garanties légales. D'ailleurs, avant de vous offrir une garantie prolongée, le vendeur a l'obligation de vous mentionner verbalement et par écrit que les garanties légales s'appliquent au produit que vous achetez. Si l'appareil est défectueux, vous saurez que vous êtes parfaitement en droit de demander au commerçant de le réparer, de l'échanger ou de vous rembourser à son choix.
Okay.
Et puis, l'appareil pourrait aussi être couvert par une garantie offerte gratuitement par le commerce ou par le fabricant. Ces garanties s'additionnent. Alors, c'est pas parce que la garantie du fabricant est terminée que les garanties légales pourraient ne pas s'appliquer. Donc, avant d'acheter une garantie supplémentaire, c'est bon d'analyser tout ça, surtout aussi de lire les conditions de la garantie supplémentaire, parce que souvent, c'est plein de restrictions.
C'est certain. Les bris d'appareils électroniques sont fréquents, on le sait. Souvent, on doit faire appel à un spécialiste pour les remettre en état. Que faut-il savoir au sujet des réparations, là?
Alors, quand on fait réparer un appareil audio, un appareil vidéo, une tablette, un ordinateur, un téléphone intelligent, la première chose à demander au réparateur, c'est de vous fournir une évaluation écrite de la réparation qui est requise. Il va y indiquer la description de l'appareil, la nature de la réparation, puis le prix total que ça va coûter. Mm-hmm. Il doit aussi indiquer la date que l'évaluation est faite et inscrire le temps pendant lequel cette évaluation sera valide. Alors, le réparateur doit attendre d'avoir votre autorisation avant de faire le travail et jamais il devrait vous facturer plus que ce qui était prévu à l'évaluation. S'il y avait une réparation qui s'ajoute, qui n'était pas prévue, il doit vous demander l'autorisation avant de la faire, un peu comme en automobile. Et enfin, une bonne chose à savoir, c'est que les réparations sont garanties.
OK. Vous voulez dire que si l'appareil brise de nouveau quelques jours après la réparation en question, on peut demander au réparateur de reprendre son travail?
Oui. Les travaux de réparation pour des appareils comme ceux-là, c'est garanti 3 mois. Et si un problème revient pendant cette période-là, le réparateur devra réparer à nouveau l'appareil gratuitement.
Ah, souhaitons que tout fonctionne bien. Sinon, on peut vous rejoindre pour de plus amples détails là-dessus.
Oui, on peut appeler à l'office au 1-888-672-2556. Il y a aussi notre site web qui contient les renseignements dont on vient de parler, bien sûr, et bien d'autres, opc.gouv.qc.ca.
Charles Tanguay, de l'Office de la protection du consommateur, merci beaucoup et bon week-end à la semaine prochaine.
Merci à vous aussi. Au revoir.
Merci. Bye-bye.
C'était la chronique de l'Office de protection du consommateur avec l'expert Charles Tanguay.